Bonjour à toutes et à tous, c'est Margot en direct de Radio Campus Amiens pour un nouvel épisode d'Info Club Sandwich. Cette émission d'actualité locale et associative est disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB+ et sur radiocampusamiens.fr. Ce mardi 9 décembre 2025, Aline interview Walid Ben Selim, chanteur, compositeur et poète, suivi de son titre « Ati ». Je vous propose ensuite une chronique à l'occasion des 120 ans de la loi sur la laïcité et la séparation des églises de l'État. D'abord, Aline, c'est à toi.
Alors, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore ?
Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Walid Ben Selim, je suis auteur, compositeur et chanteur et des fois coiffeur.
Des fois coiffeur ?
Je rigole, mais...
Comment tu es arrivé à la musique ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, les premières étapes de ton parcours ?
Les premières fois où j'ai fait de la musique, où j'ai chanté, c'était très très tôt dans mon enfance. C'est-à-dire que j'ai parlé très tard et j'ai commencé directement par chanter. J'ai fait ma première scène quand j'avais 5 ans. Et à partir de là, j'ai tout de suite compris que c'était mon chemin et qu'il fallait que j'en fasse mon parcours de vie. Et voilà, aujourd'hui, je ne regrette rien. Donc voilà, ça a commencé assez tôt. Après, ma mère, par la force des choses, m'a inscrite au conservatoire de Casablanca. Ça a duré 5 ans où j'ai fait un peu de violon. Et après, du rap, du métal. J'ai bifurqué vers l'adolescence, vers d'autres styles qui me paraissaient plus en adéquation avec ce que j'aimais, ce que je voulais exprimer. Voilà. Et aujourd'hui, je chante sur des tapis avec des harpes, voilà, avec Marie-Marguerite à la harpe.
Donc un peu au début, une histoire de famille où ta mère a voulu t'envoyer ou en tout cas te faire apprendre la musique au conservatoire, c'est bien ça ?
Disons qu'on doit presque tout à nos mères, forcément, et à commencer par les joies de la vie. Et ça, je pense qu'elle a voulu faire en sorte que si je fais de la musique, que ça soit dans de bonnes conditions ou avec un parcours plutôt professionnel. Ça s'est pas fait comme ça parce que tous arrivés à l'adolescence, on switch vers des choses et pas vers des formes de radicalité artistique. Donc voilà. Mais bien entendu, oui, c'est toujours ma mère qui m'a soutenu et m'a poussé dans cette voie. Ouais.
Tu l'as dit justement par rapport, tu as grandi à Casablanca, donc tu as participé au mouvement Naïda. Qu'est-ce que cette période a fondé en toi, en le toi artistique, mais aussi le toi humain ? Est-ce que ça a changé quelque chose ?
Disons que le mouvement Naïda, nous, de ceux qui l'ont vécu, on le pensait pas en fait, on le créait pas de nous-mêmes. C'est une appellation que les journalistes ont, et tant mieux parce que c'est le rôle des journalistes de nommer les choses. Nous, on doit les vivre en tant qu'artistes et point. C'est vraiment, pour moi, c'est vital d'avoir chacun une mission dans l'aspect artistique. Le mouvement Naïda, de ce que j'ai vécu moi pendant cette adolescence et pour arriver à l'âge adulte, c'est surtout énormément de gens qui se sont investis dans l'art, que ce soit dans le rap, dans le métal, dans le street art, dans la peinture, et surtout aller à l'encontre de ce qui se faisait à l'époque, faire en sorte qu'on s'exprime librement, et ça c'était quelque chose de nouveau. Ce que ça m'a appris beaucoup, c'est le do-it-yourself. Vraiment, c'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'on a découvert, parce qu'avant, si vous mettez le nez dans cette époque-là, si vous n'étiez pas dans un label, c'était mort. Non seulement il n'y avait pas de label au Maroc, mais il y avait des espèces de grosses structures qui pouvaient produire du raï ou du shabi ou de la musique orientale, mais pour le rap, le métal, c'était entre guillemets mal vu par la société. Donc le do-it-yourself nous a énormément sauvé. C'est grâce à ça que je me suis mis par exemple à composer sur ordinateur, c'est grâce à ça que j'ai pu découvrir ce que c'est l'écriture dans la rue, pour la rue. Donc voilà, enfin, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, c'est une époque vivifiante.
Qu'est-ce qui t'a poussé justement à quitter l'univers du conservatoire pour te diriger un peu vers le rap, le métal, surtout que c'est aussi des genres qui sont très différents.
Disons que par instinct de survie, on a tendance à s'échapper de tout ce qui veut nous conserver, comme le phéromone. Donc forcément, en tant qu'adolescent, j'ai vite compris qu'il voulait conserver quelque chose qui ne m'allait pas, ou me faire conserver quelque chose, une expression artistique ou musicale qui ne m'allait pas. Je ne dis pas que c'est des formes que je rejette aujourd'hui, mais étant adolescent, c'est quelque chose que j'ai rejeté. Donc, forcément, quand j'ai découvert le rap, c'était au même moment, le rap, on parle du rap de cette époque. On est un, IAM venait de sortir l'école du micro d'argent. On a Tupac, on a des expressions assez radicales du rap. On a Mauvais Oeil, enfin, on a des formes. On a au Maroc aussi une montée, une levée de boucliers par rapport à la jeunesse qui commence à, entre guillemets, à péter un câble sur ce que nous, ce que disaient les générations d'avant nous. Un renouveau de la culture populaire par cette jeunesse-là. Donc il fallait absolument qu'on bifurque et beaucoup, beaucoup de jeunes se sont rebellés contre ces formes un peu conservatrices.
Avec d'autres artistes, du coup, tu as fondé Nurdistan. Quel était le rêve artistique derrière ce collectif, si j'ai bien compris ?
C'est un collectif qui existe toujours et beaucoup d'entre nous qui sont passés par ce collectif-là aujourd'hui font des formes artistiques différentes et qui réussissent à peu près. Donc c'est cool, c'est vraiment c'est quelque chose qui m'honore et j'en suis vraiment heureux. Nurdistan, c'est une volonté en fait de mettre la poésie au centre de la composition musicale, parce que quand j'ai commencé à composer pour Nurdistan, je me suis aperçu que la poésie n'était pas encore... Enfin, elle était plus centrale, alors qu'avant, quand on voit au 19e siècle, 18e ou même... au début du 20e, les arts ne sont pas séparés. C'est-à-dire qu'on retrouve, même bien avant, chez Saint-Saëns, des poésies symphoniques. On retrouve des peintures aussi qui sont issues d'un poème, ou des poèmes qui sont issus d'une musique ou des choses comme ça. Donc on a des arts transversales comme ça et qui se nourrissent l'un de l'autre. Et c'est vrai qu'au 20e siècle, bon, on a perdu ça. En séparant les choses, en parlant de pop. Et je pense que c'est le fait qu'on commence à comprendre à cette époque-là que le rap est une forme de poésie, où je me suis dit, il faut absolument que je remette la main sur des textes anciens qu'on puisse mettre en rap, qu'on puisse mettre en électro. Donc l'idée, c'était de dire que tous les poètes disent presque la même chose depuis la nuit des temps. Et qu'il faut là, il faut juste se concentrer sur ce message.
Depuis, tu es toujours connecté avec ces poètes. Tu cites des grands poètes, tu reprends des poèmes. Aujourd'hui, est-ce que c'est le même amour qui te porte ou c'est autre chose ? Est-ce que c'est en plus ? Est-ce que après l'adolescence et le rejet, est-ce que tu vois encore quelque chose en plus à réaffirmer ton amour pour tous ces poètes?
Encore plus, bien entendu, parce que non seulement je suis porté par eux, mais je marche dans leur ombre, à ces poètes-là et ces grands poètes et poétesses qui, entre guillemets, si par exemple on se lance dans... en fait, quand on commence la lecture de la poésie et qu'on commence à chercher dans les livres, à se perdre dans les siècles, on s'aperçoit réellement qu'il y a des poètes qui ont compris l'essence de l'humanité. Et dans la langue arabe, on en a quelques qui dépassent l'entendement. Vraiment, quand on les lit, on comprend qu'il y a quelque chose d'assez exceptionnel dans leur manière de sonder la profondeur de l'humanité. Et du coup, plus on découvre ça, plus on devient fou et folle, et plus on devient amoureux du verbe et des enchanteurs qui nous ont précédés. Donc ouais, voilà, c'est maintenant je suis encore plus amoureux du verbe. Et pour moi, c'est une forme d'algèbre linguistique.
Aujourd'hui, on est là pour ton premier album en duo avec Marie-Marguerite Canou à la harpe. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est créée cette rencontre artistique entre vous deux ?
En fait, en 2017, je pense en 2018, on me donne une carte blanche pour créer quelque chose de nouveau. La seule consigne qu'on me donne, c'est il faut que ça soit dans la musique du monde. Et vu que moi, je suis marocain, je me suis dit la musique du monde, pour moi, c'est la musique classique. Donc je me suis mis en tête de chercher des instruments classiques et après j'ai regardé tout le spectre. Et c'est vrai que quand tu passes petit à petit les instruments, la harpe est venue comme ça et j'ai vu cet instrument que je connaissais, que tout le monde connaît bien entendu. Et j'ai commencé à me dire, mais comment ça se fait qu'un instrument aussi beau ne soit pas mis à l'honneur, même en Occident? C'est-à-dire que quand tu commences à chercher les vidéos harpe, tu tapes harpe sur YouTube, t'as que des trucs de l'ancienne époque, quoi. Mais vraiment des jardins verts avec une robe qui fait 40 mètres, des choses comme ça. Donc j'étais mais presque outré par la vision que je... Et surtout un répertoire ancien, très beau hein, par ailleurs, mais qui parle pas d'aujourd'hui. Et je me suis mis en tête de faire une création avec une harpe. J'ai commencé à chercher des harpistes et un jour on me donne le contact de Marie-Marguerite et on commence à discuter. Et là, comme dans toute forme artistique, je pense que l'humain et le plus important. Et c'est vrai que sa rencontre était exceptionnelle. Non seulement musicalement, c'était très très beau, mais en plus de ça, humainement, c'était assez... Enfin, quand il y a une synchronicité qui se crée humainement. Donc voilà, ça a commencé comme ça. On a fait quelques résidences artistiques un peu partout dans le sud de la France. Et plus on jouait, plus on se régalait. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un régal.
Pourquoi ce titre Here and Now ?
Le titre Here and Now vient d'un poème de Mahmoud Darwish qui s'appelle Ici et Maintenant, donc Huna Wal An. Et en fait, normalement, on devait le faire dans toutes les langues. Donc, par exemple, en France, appeler l'album Ici et Maintenant. Mais le problème des algorithmes, c'est qu'ils sont américains et que ça a fini par s'imposer. Mais nous, par exemple, entre nous, on dit Ici et Maintenant. Mais voilà, ça vient d'un des plus beaux poèmes que j'ai lus de Mahmoud Darwish. Et notamment, voilà, enfin, pour revenir à la question d'avant de pourquoi j'adore tant Ici et Maintenant, il dit « Ici et maintenant, entre les débris des choses et du rien, nous vivons dans les faubourgs de l'éternité. » Bah, cette phrase, dans 4 siècles, ça sera la même, comme E égale MC2.
Justement, tu en parles, tu cites beaucoup de poètes, dont Mahmoud Darwish. Comment tu as choisi les textes que tu as mis, que vous avez mis, pardon, en musique ?
Disons que choisir un texte, c'est... pas compliqué. Moi, je lis énormément de poésie. Je cherche quand je commence à chercher, ou je me mets sur le piano, je commence à chercher, et là, il y a généralement un texte qui va sortir du lot. Pendant des années, j'ai cru que c'était ça. Et après, en fait, je me suis aperçu que ces textes existent depuis le 9e, des fois le 7e siècle. Et là, de plus en plus, je me pose la question de qui utilise qui. Est-ce qu'un mec comme moi qui a 40 ans utilise un texte qui a 12 siècles, ou est-ce que c'est le monsieur qui a 12 siècles qui utilise un mec qui a 40 ans pour sauter au 22e siècle ? Donc pour moi, c'est une question qui est de plus en plus philosophique par rapport à ça. Est-ce que c'est l'art qui nous utilise pour rebondir, ou est-ce que c'est nous qui utilisons l'art ? Et j'ai l'impression que c'est le contraire. En fait, pour moi, ces textes-là nous choisissent comme du pollen qui s'accroche à la peau d'une bête pour aller partir dans un autre, sur une autre contrée. Ben, nous, on nous utilise pour partir au 22e siècle. Donc, si mon rôle, c'est de faire passer ce poème-là aux générations futures ou même dans 4 siècles. Par exemple, pour prendre l'exemple de Hallaj qui est du 9e siècle, je le chante à son époque, on voulait l'effacer, ce poète-là. On voulait vraiment, on a essayé de l'effacer, ils l'ont torturé, tué. Et ben aujourd'hui, je le chante et personne ne connaît, tout le monde connaît Hallaj, personne ne connaît les bourreaux qui ont tué Hallaj. Donc voilà, enfin. Pour moi, c'est très... C'est, maintenant, ça y est, je me dis plus que j'ai choisi le texte. Et, je dis, il me choisit et j'accepte mon sort.
Donc, il y a aussi quelque chose de très contemporain, en fait, pour toi, dans tous ces poèmes qui datent des siècles en amont. Il y a quelque chose de contemporain dans leurs écrits, dans leur verbe et dans leurs vers.
C'est ça, en fait, qui est fou. Et Hallaj, par exemple, en fait partie. Il y a des poètes qui sont... très contemporains, même s'ils sont du 7e, 9e, 10e siècle. À chaque fois qu'on les écoute, à chaque fois qu'on lit leurs poèmes, on se dit, mais c'est pas possible, il l'a écrit hier. C'est un jeune pourrait l'écrire aujourd'hui, quoi. Et c'est ça qui est fou avec la poésie. C'est pour ça que je la compare beaucoup à l'algèbre linguistique, parce que pour moi, c'est comme une équation mathématique qui existe avant l'humanité et qui existera toujours, voilà. Donc c'est très contemporain.
Le sophisme, il est vu un peu comme mystique, parfois inaccessible, mais aussi parfois tout simplement inconnu, et peu connu en tout cas. Comment tu rends cette spiritualité vivante et audible aujourd'hui selon toi ?
C'est compliqué de parler d'un mouvement ou plutôt d'une voix en fait, parce que le soufisme c'est une voix. D'ailleurs, par exemple, dans cette spiritualité, on ne parle pas de soufisme, on parle de voix. De tracé ou de chemin. Le mot soufi vient d'une simplification un peu américaine, parce que c'est les Américains qui mettent ce mot sur ce mouvement-là il y a 2 ou 3 siècles, parce qu'ils voulaient absolument marketer, entre guillemets, leur façon de parler de ces mouvements-là. Mais généralement, on le fait tous quand on arrive dans une culture et qu'on veut s'accrocher et à comprendre quand on aime quelque chose, donc on la nomme assez rapidement. Donc je pense qu'ils l'ont fait avec une bonne volonté, mais c'est vrai que dans les spiritualités qu'on appelle soufis, on parle plutôt de tariqa, qui veut dire le chemin ou la méthode. Moi, ce que je fais, c'est je reprends des poètes soufis, d'accord ? Je reprends ce que je pense être de la poésie soufie, mais j'ai rarement rencontré quelqu'un qui est dans la voie, qui te dise « moi, je suis soufi », ou il va te dire « je suis sur le chemin ». Donc je cherche, en fait. Pour moi, c'est plutôt une une méthode où tu dois chercher quelque chose, pas forcément la nommer, pas forcément lui mettre une étiquette et la vendre sur un rayon de Fnac ou de supermarché, mais en tout cas de faire en sorte que tu cherches quelque chose. Et déjà, moi, je trouve ça très très beau comme, comme façon de voir cette spiritualité. Je pense que de toute façon, si on nomme, on fige, et c'est pas le but, forcément, parce que dans cette spiritualité, l'idée, c'est aussi le changement. C'est-à-dire qu'on d'un état, on change pour devenir quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est beau dans cette spiritualité, et je pense que c'est pour ça que c'est pas connu. C'est parce qu'il y a cette, cette dualité entre, entre toujours chercher quelque chose bah, que tu ne peux pas nommer. Et tant mieux, parce que le, pour moi, cette spiritualité, elle est beaucoup plus ancienne que les autres religions.
Est-ce que du coup, toi, tu te considères en étant sur ce chemin-là ? Est-ce que toi, tu es sur ce chemin ?
J'en sais rien.
Et j'ai une petite dernière question. Si tu devais transmettre un ou plusieurs messages au public que tu rencontres, que vous rencontrez ce soir ou même pour les prochaines dates, ça serait quoi le message principal que tu voudrais transmettre à ton public ?
Soutenez toute tentative d'amour. Quelle que soit la tentative d'amour que vous voyez autour de vous, soutenez-la.
C'est très beau. Je pense qu'on va finir sur ça. Une dernière petite question. Est-ce que tu as des projets les prochains mois, années, nouvel album, scène, collaboration ? Est-ce que tu as un petit peu d'actualité pour les prochains temps, semaines ?
Eh bien oui, là on est en train de préparer un gros projet qui s'appelle Les Processions, qui est autour du livre, le livre des Processions de Gibran Khalil, qui est un des plus grands poètes philosophes du siècle dernier, que vous devez connaître bien entendu, et qui a avant d'écrire Le Prophète, a écrit le livre des Processions, qui est un chef-d'œuvre exceptionnel de poésie. Et là, avec la scène nationale de Perpignan, celle de Sète, l'Institut du monde arabe, on a énormément de partenaires qui ont bien voulu suivre cette folie parce qu'on sera 120 sur scène. C'est une œuvre chorale où je me suis mis en tête de composer pour chœur, donc, et ils ont dit allez, pourquoi pas, donc ils sont complètement fous et ils ont la foi, et tant mieux, j'adore ça. Donc voilà, fin, c'est un des plus gros projets qu'on aura pour juin 2026. Et aussi un duo que je fais avec Raoul Refré, qui est un compositeur, producteur espagnol que j'adore, avec qui on a fait des résidences et on adore partager la scène. Mais on continue avec Marie-Marguerite sur les routes jusqu'en septembre 2026. Et encore, on a des dates qui arrivent et on ne s'arrêtera pas. Tant que des gens nous inviteront.
En tout cas, on vous invite à suivre ça. Ça sera disponible sur le site de Radio Campus Amiens, toutes vos pages où on va pouvoir retrouver votre actualité. Merci beaucoup.
Merci Radio Campus. Thank you.
Écoutez toujours Info Club Sandwich sur Radio Campus Amiens 87.7 et c'était Hati de Walid Ben Selim. Merci à Aline encore pour cette interview. Aujourd'hui marque les 120 ans de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. On la considère fondatrice du principe de laïcité en France. Mais en réalité, tout commence lors de la Révolution française, une première étape franchie, comme dit dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, disant que « nul homme ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi ». Enfin, c'est encore très limité, et on le constate avec le traité Concordat en 1801, qui doit rétablir la paix religieuse, mais seuls 4 cultes finissent par être reconnus. Initialement, seul le culte catholique l'était en 1801, suivi ensuite des cultes protestants en 1802, et bien plus tard le culte israélite en 1808 seulement. Les choses avancent encore un peu plus avec les lois Jules Ferry et René Goblet entre 1881 et 1886, notamment avec l'exclusion de l'enseignement religieux des écoles. Finalement, il y a 120 ans, jour pour jour, rupture entre l'État et les églises. Les tensions s'accumulaient déjà depuis bien longtemps, et c'est dans le contexte de l'affaire Dreyfus, qui débute en 1894, que les radicaux républicains et la droite catholique explosent. Alors, la loi est alors présentée au Parlement, puis voté après seulement 48 séances de débat. Le besoin de laïcité pour permettre un équilibre et un, j'ai envie de dire, semblant d'égalité et liberté pour tous, est aussi vieux que les cultes qu'on retrouve en France depuis le Moyen-Âge. Et malgré son ancrage dans notre société, elle reste souvent en danger. Quelles sont ses réelles limites? Comment respecter chaque culte et chaque exercice de culte, tout en se respectant les uns les autres, et surtout en maintenant la neutralité publique? Enfin bon, ce n'est pas le moment de se poser ces questions, mais plutôt le moment de commémorer ceux qui ont permis chaque évolution, même minime, car beaucoup ont un jour parcouru ce monde comme nous, et en chacun de nous est encore inscrit l'histoire de notre liberté, plus ou moins gagnée. C'est l'occasion de commémorer ceux qui ont souffert de l'absence de cette laïcité, qui initialement ne représente pas que l'interdiction de port des signes ostentatoires en public, comme on finit par le croire en écoutant les débats à son sujet. La laïcité est un principe censé nous réunir et pas nous séparer. Alors aujourd'hui, pensons à eux, qui se cachent encore en chacun de nous, ou qui se sont perdus, rendant leur hommage en célébrant nos libertés acquises, mais surtout en continuant à se battre pour les garder, les récupérer, espérant un jour ne plus avoir à les quémander. Alors voilà, c'est la fin de bientôt la fin d'Info Club Sandwich. Dernière petite annonce, l'émission « Ça ne tient plus », c'est déjà demain. De 18h à 23h, 5 heures d'émission, proposée par Radio Campus Amiens. C'est une émission spéciale, en collaboration avec la MAM, la Maison des Associations d'Amiens, et le mouvement associatif, qu'on connaît déjà bien. Les animateuristes bénévoles de la radio animeront des plateaux associatifs, des échanges et des interviews, afin de parler de la situation des associations et des radios associatives. Vous pouvez toujours participer en laissant un message vocal au 03 22 72 03 69, ou sur l'Instagram ou Facebook de Radio Campus Amiens. Dites-nous simplement pourquoi votre radio locale et vos associations comptent pour vous. Au programme, beaucoup d'invités, on comptera parmi nous Evelyne Journaud de la MAM, Claire Bizet, directrice du mouvement associatif des Hauts-de-France, Florian Bertrand, le président de la FEP, et Fabrice Raffin, maître de conférence, mais encore bien d'autres invités. Alors, seront également présents des représentants et représentantes de la CNRA, Confédération Nationale des Radios Associatives, mais aussi de Radio Campus France, du SNRL, Syndicat National des Radios Libres, et plus encore. Ça fait beaucoup, une très grosse émission, et tout ça sera marqué bien sûr par des temps musicaux de nos artistes locaux et des interviews comme celle de Gabriel Zuckmann, qui est économiste. On finira sur une émission collaborative avec les bénévoles de MUF et de Podcast, qu'on connaît déjà très bien, jusqu'à 23h. Retrouvez plus d'informations sur nos réseaux sociaux et sur le site de radiocampusamiens.fr. On se retrouve donc demain midi pour Info Club Sandwich, toujours sur le 87.7 FM, le DAB+, et radiocampusamiens.fr. On écoute tout de suite Good Goodbye de Waza pour se dire au revoir. Bonne journée à tous. Oh, Jesus.